Bonjour Monsieur Chevigneau.
Madame Gaillet, bonjour.
Alors on parle MJC comme ça ?
On parle MJC, on parle... Oui, on parle jeunes, on parle culture, on parle disparition. On n'espère pas évidemment des MJC faute de subventions. Et surtout, plutôt que disparition, comment continuer à faire vivre les MJC puisqu'il y en a besoin dans ce pays ?
Ok, allez, foncez.
On vous retrouve à 11h, Madame Laetitia Gaillet.
Monsieur Chevigneau, à tout à l'heure.
À tout à l'heure, 11h. Son nom ne vous dit peut-être rien, il s'appelle Xavier Bettel. Il vient d'épouser Gauthier Destenay. Xavier épouse Gauthier, jusque-là rien de très original. Xavier épouse Gauthier, ça se passe au Luxembourg, pays monarchique de tradition catholique et qui fait partie des 13 pays européens où deux hommes ou deux femmes peuvent se marier. Au Luxembourg, les couples homo ont également la possibilité d'adopter. Xavier et Gauthier, pour l'instant, n'ont pas d'enfants. Il faut dire que Xavier Bettel a un job plutôt prenant. Il est le premier ministre luxembourgeois. Xavier Bettel a pris la succession de Jean-Claude Juncker et il devient le premier dirigeant politique uni par les liens d'un mariage homosexuel dans l'Union européenne. Luxembourg, ce n'est plus ce petit pays coffre-fort où les multinationales s'installent attirées comme des mouches par une fiscalité plus qu'avantageuse. Le Luxembourg, ça devient aussi un pays moderne, dirigé par un gay, marié, jeune, il a 42 ans, et qui, entre autres, a le projet d'abaisser le droit de vote à 16 ans, limiter à 10 ans consécutifs les mandats du membre du gouvernement, et en plus, proposer le droit de vote aux étrangers, à tous les étrangers, et pour les législatives. Est-ce que, en France, vous pensez sincèrement qu'un homme jeune, marié avec un autre homme, et qui propose le droit de vote aux étrangers, a la moindre chance d'arriver au pouvoir ? Le coming out des hommes et des femmes politiques se compte sur les doigts d'une main dans notre pays, le plus médiatique d'entre eux, l'ancien maire de Paris, Bertrand Delanoë, Roger Carucci, ou Jean-Luc Romero, je ne parle pas de ceux dont la sexualité est révélée par la presse à scandale. Les femmes sont encore plus discrètes sur la question, don't ask, don't tell, comme on disait dans l'armée américaine, l'homosexualité, on ne demande pas, on n'en parle pas. Le Luxembourg, souvent présenté comme un pays conservateur, vient de donner une belle leçon d'ouverture. Tous nos voeux de bonheur à Xavier et Gauthier.
Service public, Thomas Chauvineau.
C'est un vieux mouvement initié par André Malraux il y a 54 ans avec trois initiales, MJC comme Maison des Jeunes et de la Culture. Il y en a un peu partout en France, on y fait du théâtre, de la musique, on y organise des sorties, mais surtout, c'est pour les jeunes un endroit qui permet de rencontrer des adultes qui ne sont ni ses profs ni ses parents, un lien privilégié qui peut leur permettre de parler comme ils ne le feraient pas forcément ailleurs. Les MJC et toutes ces petites sœurs, dans le même esprit, fonctionnent essentiellement à coup de subventions qui ont beaucoup baissé au cours de ces deux dernières années. La question ce matin n'est pas de pleurer sur leur sort, mais en se disant c'était mieux avant, hein, mais au contraire de trouver les moyens de poursuivre, parce que oui, ce type de structure est aujourd'hui plus que nécessaire. MJC, comment continuer ? C'est le service public de ce mercredi. Avec quatre invités ce matin pour en parler. Marie-Pia Bureau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice de l'espace bien nommé Malraux à Chambéry. En face de vous, Frédéric Gimello, bonjour.
Bonjour.
Professeur de sociologie de la culture. En face de vous, Didier Michou, bonjour.
Bonjour.
Vous m'avez fait non comme ça quand j'ai dit MJC, c'est un mouvement, c'était une façon de parler, un abus de langage. En effet, ce n'est pas un mouvement. Allez-y, expliquez-vous.
Alors en fait, ce n'est pas du tout par rapport à ce que vous venez de dire, c'est plus par rapport à Malraux. Malraux n'est pas du tout à l'origine des maisons de jeunes et de la culture.
C'est lui qui l'a inauguré pourtant en 61 au Havre.
Ah oui, mais c'était une maison de la culture, mais pas du tout maison de jeunes et de la culture. Les maisons de jeunes et de la culture, c'est issu du mouvement du Conseil de la Résistance après 45 avec tous les mouvements de jeunesse.
Voilà, et Jean Zé, dont on pourra parler. Bah alors, puisque vous en parlez, je présente juste Serge Effez, notre psy du mercredi qui est avec nous. Puisque vous parlez de Malraux, j'en avais pas prévu forcément de l'écouter tout de suite, mais écoutons-le et vous allez voir pourquoi j'ai peut-être fait la confusion. Parce que Malraux, dans cette ouverture de cette maison de la culture, au Havre, parle bien de la jeunesse.
Eh bien maintenant, ceux qui arrivent au Havre, ils trouvent non seulement un très beau musée, mais encore une maison de la culture dont l'équivalent n'existe ni aux États-Unis, ni au Brésil, ni en aucun lieu d'Europe, ni en Union soviétique. Espérons que ce qui commence ici continuera. J'ai assez bon espoir, je pense qu'avant 3 ou 4 ans, nous aurons une maison de la culture comparable à celle-ci dans chacune des grandes villes de France.
Pour vous, monsieur le ministre, ce qui est important, c'est que le musée soit en quelque sorte un soutien et que la maison de la culture soit la facilité pour tous les jeunes, justement, de trouver un complément.
Ce qui est important, c'est que n'importe quel garçon de 15 ans, pauvre ou du fond de la province, puisse trouver dans l'ordre de l'esprit la même chance qu'un garçon très riche et parisien.
D'où ma confusion. Didier Michoud, vous êtes donc le directeur d'une MJC, celle de Savigny-sur-Orge.
Oui, tout à fait. Je suis directeur de la MJC de Savigny-sur-Orge depuis 1999. J'ai le plaisir d'avoir dirigé cette maison et j'espère encore pour quelques années futures. Comme vous le savez, le 13 avril, le conseil municipal a annoncé brutalement l'arrêt purement et simplement de l'ensemble des subventions allouées à la MJC de Savigny, ce qui représente 175 000 euros. Il a décidé aussi, ce conseil municipal, la fermeture d'une crèche municipale, la fermeture également d'un centre de vacances qui s'appelle la Savinière, l'arrêt d'une opération sport pour tous pendant l'été et la diminution d'une dotation pour les écoles primaires sur toute la saison.
Alors, deux choses avant d'aller plus loin. D'abord, le maire que nous avons contacté de Savigny-sur-Orge n'a pas souhaité participer à l'émission, mais il a écrit dans sa lettre du maire que les dotations de l'État, c'était cette année pour lui 5,8 millions d'euros en moins. Une façon d'expliquer la baisse de la dotation dont vous faites, à laquelle vous faites aujourd'hui allusion, Didier Michoud. Et puis, par ailleurs, à titre plus personnel, je déclare mon conflit d'intérêt parce qu'il se trouve que je connais très bien la MJC de Savigny-sur-Orge. J'y ai appris à jouer de la guitare et au-delà de ça, c'était pour le lycéen que j'étais, l'occasion de rencontrer des adultes. Et c'était pas dans un cadre scolaire, c'était pas dans un cadre familial. Donc du coup, c'était avec une parole plutôt libre. Et j'ai le souvenir de discussions sur la drogue, la sexualité, la politique, la religion, et puis également la vie de tous les jours. Donc des adultes référents, en quelque sorte, qui ont parfois aidé à défricher ou à délimiter le chemin dans le voyage assez compliqué de l'adolescence. Et finalement, c'est un peu aussi à ça que ça sert une MJC, Frédéric Gimello.
Oui, je voudrais juste préciser que le débat qui anime aujourd'hui les pouvoirs publics quant au rôle des MJC touche également l'ensemble des structures culturelles. Je crois que Marie-Pierre Bureau pourra en témoigner tout à l'heure.
On a bien dit MJC et petite sœur.
Oui, mais même les structures qui dépendent du ministère de la Culture sont aussi touchées par des baisses de subventions. On en parlera sans doute au cours de l'émission. Il y a d'une part les difficultés conjoncturelles qui sont liées au budget de l'État, mais aussi aux rôles qui sont dévolus à ces structures dont on l'a bien vu en début d'émission, l'ambiguïté sur le terme de C. Est-ce que les maisons de jeunes et de la culture sont des maisons de jeunes ou des maisons de la culture comme les autres? Là, il y a des arbitrages qui sont tout à fait intéressants.
Alors, précisément, le rôle d'une maison de la culture pour les jeunes, alors disons ça de manière un peu plus générale, qu'est-ce que c'est, Marie-Pierre Bureau?
Alors juste, nous l'espace Malraux, on s'appelle aujourd'hui Scène Nationale, et c'est ça justement, les anciennes maisons de la culture créées par André et Malraux s'appellent aujourd'hui Scène Nationale. L'espace Malraux à Chambéry est une de ces dernières maisons de la culture historiques créées. Qu'est-ce qu'on y fait? On y reçoit beaucoup de jeunes, pas que des jeunes en fait. L'idée c'est vraiment qu'on y reçoive tout le monde. L'idée de Malraux c'était de rendre accessibles les œuvres capitales de l'humanité, disait-il, à chacun. Mais en tout cas, ce qu'on défend, nous, absolument, c'est l'idée du mélange de public, du partage, que le meilleur est possible pour tous. Et je pense que dans les remises en cause qui ont lieu actuellement, cette idée-là, elle est beaucoup mise à mal. C'est-à-dire qu'on a un peu de tendance à nous répondre que... En fait, chaque individu aurait des goûts qui correspondraient à un résultat d'études de marché en fonction de son âge, en fonction de son milieu social, son origine géographique, etc. Et qu'en termes de programmation, ce qu'il faudrait, c'est pouvoir répondre à ses goûts. Or, nous, on continue de défendre que... Un jeune, il peut aller un jour au hip-hop, il peut un jour aimer de la musique classique, etc., etc.
Donc, on va proposer une palette.
Proposer une palette et inciter à la transversalité à l'intérieur de ça, ça me semble être très 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 important ça.
Alors au-delà du financement, il y a évidemment le rôle que la culture peut jouer auprès des jeunes. Juste après le disque, le reportage d'Antoine Lee à Saint-Ouen et main d'œuvre. Ce n'est pas une MJC ni une maison de la culture, mais c'est tout comme, le lieu va fermer malgré ce qu'il apporte à la ville. Ce sera donc juste après, vous avez reconnu l'intro, David Bowie, Young Americans, l'expo. David Bowie d'ailleurs se tient en ce moment à la Philharmonie à Paris, et France Inter en est partenaire.
his ring, took his babies. It took him minutes, took her nowhere. Heaven knows he'd have taken anything.
All night.
She wants a young American.
Continue à discuter pendant le disque. Le sujet de service public aujourd'hui en trois expressions, culture, jeunes et baisse des subventions, baisse des dotations. Beaucoup de villes sont touchées, hein, Saint-Dizier, Colombes, Grisan, Calais, Lons-le-Saunier, Montmorillon, Chilly-Mazarin, Tours, Auxerre, Chalon-sur-Saône. Sur franceinter.fr, à la page service public de l'émission, ce message que nous recevons d'Isabelle qui nous dit le maire de Fleury-Mérogis va également considérablement réduire sa dotation auprès du centre musical et artistique avec pour conséquence la suppression de nombreux cours alors que la ville voit doubler sa population. Cet autre message qui nous arrive de Robune qui nous dit les associations et les MJC sont un formidable amortisseur social qui les empêcher de servir leur mission de service public représente un véritable danger, celui d'une crise sociale qu'on ne pourra pas contrôler. On trouve beaucoup d'activités qui sont importantes pour tout un public et répétez le mot danger. Dans le communiqué, vous avez expliqué Marie-Pia Bureau que l'espace Malraux de Chambéry devrait fermer ses portes pendant 3 mois pour chômage technique, faute justement de subvention. Vous avez eu cette phrase, vous dites « C'est important d'inventer une maison de la culture en 2015, après Charlie. Pourquoi ?»
Oui, après Charlie, et après Internet, etc. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas que ce soit des temples du passé. C'est aujourd'hui, ça vit, ça accueille des artistes qui créent au quotidien, qui, contrairement à ce qu'on voudrait faire croire d'eux, souvent dans le fantasme, l'artiste irresponsable, etc., au contraire, ont un grand souci de ce que c'est qu'aujourd'hui, du monde, du public, de comment on crée ce lien, qui cherchent des moyens... pour créer cette interaction avec le public. Il y a de plus en plus de spectacles interactifs, par exemple, qui naissent. Mais peu importe, ça peut paraître anecdotique. Mais en tout cas, c'est important que ça continue à se renouveler et que ces maisons qui sont nées pas mal de l'idée de Malraux, qui venait du Conseil National de la Résistance, hein, c'était quand même faire un socle de valeurs communes. ce qui est la culture, pour éviter le retour de la barbarie. Tout ça, les conditions d'émission, ça doit se réinventer au quotidien. Je voudrais juste dire une chose par rapport aux remarques des auditeurs. À Chambéry, il y a une baisse de subventions qui conduit à des décisions graves, un plan social pour l'équipe, ça met tout le monde en difficulté. J'espère qu'on va survivre et qu'il y aura toujours des beaux projets. C'est pas facile d'être un élu actuellement. Il y a des choix à faire. Je sais qu'à Chambéry,
on aura en ligne une élue de la ville de Grenoble.
La ville a de réelles difficultés. La question, c'est pourquoi dans l'opinion publique actuellement, ça semble si évident que quand il y a choix à faire, c'est la culture en premier lieu qui paraît l'élément le plus accessoire dans la constitution d'un citoyen.
Frédéric Gimello, professeur de sociologie, spécialiste de cette question de la culture, justement, je vous vois hocher la tête comme ça, ou enfin plutôt la tourner quand vous dites la question, pourquoi est-ce que c'est assez communément admis qu'en effet, les premières coupes auxquelles on peut procéder, c'est d'abord dans l'univers de la culture ?
Je suis pas tout à fait d'accord là sur l'interprétation qui est faite là par Marie-Pierre Bureau, même si je partage évidemment la question de l'émancipation de l'individu qui est au cœur des MJC. Le choix qui est fait aujourd'hui de couper les subventions à ces structures, il est lié d'une part à des questions budgétaires qui touchent l'ensemble des collectivités territoriales. Il faut rappeler que depuis quelques années, mais depuis peu de temps, le principal financeur de la culture aujourd'hui en France, c'est plus l'État, ce sont les collectivités territoriales, et ça a vraiment modifier le rapport de force que les élus entretiennent avec leurs directeurs d'équipement, puisque tout à l'heure en off on parlait du terme comment qualifier ces lieux qui sont des lieux culturels. Ça c'est le premier point. Le second c'est que les MJC, je crois qu'il faut le dire quand même, et on est assez peu nombreux à le dire, mais il faut, se sont faites dépouiller de leur mission d'éducation populaire par un ensemble d'opérateurs.
C'est-à-dire
L'émancipation de l'individu, l'éducation aux arts, la pratique artistique amateur désintéressée. Aujourd'hui, le ministère de la Culture, mais aussi le ministère de l'Éducation, revendique ses missions. On n'a qu'à voir aujourd'hui le terme d'éducation artistique qui fait floresse dans tous les lycées aujourd'hui, avec le plan d'éducation artistique. J'en prends pour exemple cette année, depuis l'an dernier, nous célébrons toute une année qui est dédiée au jeune public, la belle saison pour l'enfance et la jeunesse, par exemple. Les dispositifs
L'éducation nationale a,
oui, c'est
vous
emparé.
Avez employé le mot, dépouiller les MJC.
Alors, dépouiller, évidemment, ça va.
Les MJC et autres structures culturelles.
Les structures d'éducation populaire qui avaient basé depuis justement le Conseil national de la résistance leur action sur l'émancipation de l'individu, sur la pratique amateur. Eh bien, cette grande ambition, qui était une ambition très noble du ministère de la Jeunesse et des Sports, pour aller vite, est aujourd'hui récupérer en tout cas l'apanage des dispositifs d'éducation artistique, éducation à l'image, pratique, etc. Donc ça pose des problèmes de frontières.
Vous évoquez, Frédéric Gimello, le terme émancipation de l'individu. Je me tourne vers le psy qui est avec nous, Serge Effèze. Quelle fonction remplit finalement la culture chez un jeune qui se construit, puisque c'est bien de ça dont on parle ce matin?
J'aimerais rebondir sur le après Charlie, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé après Charlie? On s'est interrogé sur la question de la citoyenneté. Qu'est-ce que c'est qu'être un citoyen de notre République? Et c'est bien évidemment à ce projet-là que ce type de structure peut répondre mieux qu'une autre. Parce que qu'est-ce que c'est que la citoyenneté? C'est participer, je crois, à un lien social, tous ensemble, autour d'un projet collectif qui transcende justement les communautés et qui transcende les intérêts communautaires. Donc, ça veut dire, on peut être jeune, vieux, blanc, noir, homme, femme, etc. et participer ensemble à travers ces équipements culturels à un projet, qu'il soit sportif, qu'il soit culturel, qu'il soit musical, qu'il soit artistique, peu importe. Mais c'est surtout cet aspect transversal qui me semble le plus important et qu'on ne retrouve pas dans les lycées, qu'on ne retrouve pas dans les collèges, quelle que soit la qualité de l'enseignement des matières qui y soient fournies. Vous savez, moi je suis comme vous, Thomas, moi j'étais, ma deuxième famille quand j'étais jeune, c'était une maison de la culture dans la banlieue où j'habitais, et c'était pour moi la seule opportunité effectivement de rencontrer des gens avec qui je n'étais pas habituellement en contact. Des adultes, des gens d'autres cultures, des gens qui ne suivaient pas les mêmes études que moi, et je crois que c'est là qu'on forge justement cette fraternité citoyenne qui nous manque tant aujourd'hui.
Alors nous sommes au téléphone avec Corinne Bernard, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes adjointe aux cultures de la ville de Grenoble et vous avez vous-même dû vous résoudre à sabrer les financements des activités culturelles de la ville.
Alors en fait, j'ai effectivement dû faire en sorte que ma délégation participe à ce que l'État nous impose depuis cette année, c'est-à-dire l'austérité. Par contre, j'ai tenu, et avec toute la municipalité, à ce que la culture reste le troisième budget de la ville. Donc on a laissé, comme beaucoup d'autres délégations, mais pas toutes d'ailleurs, hein, on a veillé à faire en sorte que le bouclier social existe, donc tout ce qui est action sociale, nous ne l'avons pas baissé. Mais oui, la culture doit participer à cet effort.
Je reprends les mots du maire de Grenoble, Éric Piolle. Pour garder la capacité de faire des choix avec des moyens en baisse, il faut faire des actes radicaux.
C'est plutôt comment on met en œuvre un projet politique.
Ah pardon, c'est ce qu'il a déclaré dans la presse.
Certes, mais je suis pas Éric Piolle, donc j'allais vous faire juste l'explication de texte qu'une adjointe peut faire sur sa thématique. Nous, on est en train de chercher comment on rend positive et concrète toutes les actions qu'on veut mener pour les Grenoblois. Donc, on met en avant tout ça. Donc, effectivement, on a dû baisser, par exemple, le rayonnement à l'international. Oui, sur une politique municipale, on a dû arrêter avec cette politique-là. Mais par contre, on développe beaucoup d'actions positives, comme l'ouverture de la balle électrique, le printemps du Libre qui maintenant s'est déroulé au musée de Grenoble, un projet d'établissement pour le théâtre municipal, le premier Grenoble Street Art Festival. On est vraiment sur comment faire pour les Grenoblois une belle politique culturelle et pour répondre aussi à ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à une actualité politique et un quotidien difficile des gens, mais il faut qu'on fasse vraiment le meilleur avec eux. Et d'ailleurs, on est accompagné par tous les projets qui nous apportent. Mais aujourd'hui, je voulais juste une toute petite précision quand même. Quand j'entends Manuel Valls dimanche annoncer que lui maintenait son budget alors que les collectivités le bougeaient, le baissaient, c'est faux. À Grenoble, le conservatoire a perdu 175 000 euros et on a une annonce de la semaine dernière. Sur les musiques actuelles, on vient encore de perdre 50 000 euros et cet argent n'est pas redéployé à Grenoble.
Alors les chiffres, hein, en effet, sur la baisse des dotations que naguère l'État a donné aux collectivités, hein, c'est 1,5 milliard en moins en 2014, 3,7 milliards en moins pour cette année en cours. Grenoble est une ville verte. Je me tourne vers vous, le sociologue Frédéric Gimello. Est-ce que ça touche plus ou moins ces baisses de subventions des mairies de droite, des mairies de gauche, ou est-ce que tout le monde est confronté à la chose ?
Non, tout le monde est confronté à la chose. Depuis quelques années, l'ensemble des ministères sont soumis à un terme barbare qu'on appelle la RGPP, la Réforme Générale des Politiques Publiques, qui impose à chaque municipalité, chaque collectivité, à une bonne gestion, des pratiques de bonne gestion des subventions. Et ça demande donc aux acteurs culturels de territoire de demander leurs subventions sur la base d'un projet. Donc on est passé d'une logique de financement structurel, qui était plus ou moins reconductible, à aujourd'hui des financements par projet, qui amènent donc des structures qui sont pourtant pérennes, comme l'MJC, c'est pas depuis hier que l'MJC existe, à devoir systématiquement demander leur subvention sur la base d'un projet. Mais ça touche également les structures du ministère de la Culture.
En même temps, c'est
donc une fragilisation.
Ça paraît normal qu'aujourd'hui, compte tenu de cette crise qui certes peut avoir bon dos, alors, on demande des projets. Non, je voudrais écouter Didier Michou, le directeur de la MJC de Savigny-sur-Orge.
Moi, je voulais revenir un petit peu sur...
Non, revenons pas, parce que sinon on n'avance plus. Allons sur cette histoire de projet, s'il vous plaît.
Sur ce qui a été dit autour de l'éducation populaire, moi je voudrais donner quand même une petite définition qui me semble importante. C'est Jean Lorrain qui écrivait dans son livre dans les années 70, « L'éducation populaire, c'est avant tout la pratique de la démocratie, c'est apprendre aux gens à se prendre en charge, à traiter eux-mêmes leurs propres problèmes ». À partir de là, effectivement.
Je voudrais qu'on parle maintenant de 2015 et des difficultés auxquelles aujourd'hui vous êtes confrontés et comment les contourner, parce que c'est l'objet de l'émission.
Je voulais aussi dire que la façon dont la ville de Savigny a traité l'AMJC est proprement scandaleuse. C'est-à-dire qu'on a été informé par la presse le vendredi 10 avril que le conseil municipal allait prendre la décision de supprimer purement et simplement la subvention à l'AMJC pour 2015. Donc bien évidemment, nous depuis un certain nombre d'années, on travaille en étroite relation avec la collectivité locale. Se faire annoncer par la presse et le lundi 13, conforté par le conseil municipal, la suppression de cette subvention, ça a été plus qu'un coup de bâton, un coup de massue pour l'ensemble de l'équipe que je dirige depuis de nombreuses années, pour l'ensemble des Savignens, parce qu'il y a effectivement, je l'ai dit, non seulement la MJC, mais toutes les autres initiatives qui sont touchées par la ville. Et le maire, son grand regret, c'est de constater que ça est fuité dans la presse. Et lorsque nous avons eu conseil d'administration...
Franchement, honnêtement, on rentre dans une querelle interne. Je comprends bien la difficulté à laquelle vous êtes confronté. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment on peut faire aujourd'hui pour continuer. Quel est l'avenir du coup de la MJC de Savigny-sur-Orge?
Aujourd'hui, nous avons donc la ville de Savigny-sur-Orge qui ne nous a toujours pas donné de rendez-vous pour envisager l'avenir sereinement. La ville nous dit, mais nous ne voulons pas la mort de la MJC. Certes, nous supprimons la subvention que vous perceviez en 2014 de 175 000 euros.
Mais nous laissons les
locaux, deux personnels et le directeur. Ça veut dire on ampute des trois quarts les moyens affectés à l'association. Et après, vous pouvez effectivement faire en sorte de continuer à développer votre projet. Donc nous, aujourd'hui, il y a effectivement l'attente nécessaire pour déjà digérer. Il y a aussi le licenciement de l'ensemble de l'équipe, ce qui représente quand même 20 personnes, 6 équivalents temps plein, en un mois. Ça fait un mois que la décision a été prise. Vous comprendrez bien que par rapport à l'avenir est certes particulièrement incertain. Si on a des certitudes, alors non seulement sur...
Mais est-ce que vous comprenez qu'aujourd'hui, une MJC doit aussi être comptable de ses subventions, justement?
Est-ce qu'une collectivité doit se comporter comme ça? C'est-à-dire que nous, on a bien entendu les difficultés que subissent l'ensemble des villes. Pour autant, est-ce qu'une ville peut se comporter de cette façon-là, en évitant soigneusement de mettre les gens autour d'une table, et puis dire, la baisse de la subvention, elle est de temps. Qu'est-ce qu'on peut faire? L'avenir, pour nous, c'est aussi un travail avec un collectif qui s'est mis en place pour envisager un avenir à partir de septembre avec des conditions largement minorées. Ce que vous disiez par rapport à l'accueil qui peut être fait sur les jeunes et qui est un lieu d'ouverture, de médiation, on espère qu'on pourra le continuer, mais pas du tout avec les mêmes moyens.
Les MJC sont-elles vouées à disparaître? On en parle dans Service Public ce matin. J'annonçais le reportage d'Antoine Lee tout à l'heure. Et bien en fait, ça va être juste après le disque, le temps d'un diablement. Et donc, le reportage d'Antoine Lee qui viendra, oui c'est ça, juste après Diablement. Diablement, ça dure exactement 2 minutes et 31 secondes. Ça va très vite, Diablement.
Service public 01 45 24 7000 ou sur franceinter.fr.
Dans tes classeurs de lycée, y a tes rêves et tes secrets, tous ces mots que tu ne dis jamais, des mots d'amour et de tendresse, des mots de femme que tu caches et qu'on condamne. Dans tes classeurs de lycée, y a du sang et y a des pleurs, des premières blessures de ton cœur, les premières blessures, les premières déchirures qui font des bleus à ton âme, qui font des bleus petite âme. Des diabolomantes, quand tu racontes les nuits du dernier été et les tout premiers amants que tu n'as eu qu'en rêvant, dans tes classeurs de lycée, y a tes rêves et tes secrets. Des mots d'amour et de tendresse, des mots de femme que tu caches. condamne, que tu caches, petite âne, que tu caches et qu'on condamne, que tu caches, petite âne.
La difficulté de continuer à exister pour les MJC et autres structures culturelles, puisque jusqu'à présent on n'a pas trouvé de meilleurs mots pour en parler avec quatre invités ce matin. Marie-Pia Bureau, vous êtes directrice de l'espace Malraux à Chambéry. Frédéric Gimello, vous êtes sociologue de la culture. Didier Michoud, directeur de la MJC de Savigny-sur-Orge. Et Serge Effèze, notre psy du mercredi. Ces messages qui nous arrivent sur le site de France Inter, franceinter.fr, à la page service public. Dominique nous dit, les MJC étaient déjà malmenés par les politiques dans les années 60-70 pour les financements et les mises à la disposition des locaux parce que c'était des projets ambitieux. Grâce à la MJC de mon quartier, venant de milieux modestes, j'ai rencontré des amis, des artistes. J'y ai appris beaucoup de choses de la vie et j'y ai pratiqué aussi des activités culturelles. Cela m'a permis une ouverture formidable au monde. Cyril qui nous dit la question budgétaire n'est pas forcément centrale. La subvention à la MJC représente, en tout cas celle de Savigny-sur-Orge, nous dit Cyril, moins de 1% du budget. C'est vrai Didier Michoud, c'est
pas
moins
du tout.
Moins de 1% du budget de la culture. Non, non, de la culture de Savigny.
Oui.
Moins de 1%.
Oui.
Et puis cet autre message de Rémi qui nous dit dans de nombreux pays européens, de nombreuses structures type MJC sont depuis toujours autogérées par les jeunes eux-mêmes, ainsi habitués dès leurs études à construire, à faire fonctionner des projets socio-culturels et pour ces lieux d'accueil, des projets aussi de spectacle. Puis nous sommes au téléphone avec Fatia. Fatia, bonjour. Fatia, vous êtes avec nous. Vous nous appelez de Besançon. Fatia, allô?
Oui, bonjour.
Bonjour Fatia. Vous nous appelez donc de Besançon et vous-même, vous avez bénéficié de MJC, vous y avez été quand vous étiez jeune et aujourd'hui vous y travaillez, c'est cela?
Alors en fait, je n'y travaille pas directement. J'ai participé à une MJC en qualité de au conseil d'administration et ce pendant 12 ans. Alors je voulais simplement témoigner du rôle essentiel qu'une MJC peut avoir sur un territoire et en particulier sur des territoires aujourd'hui fragilisés. Moi-même, je suis issue de l'immigration et j'ai pu bénéficier pendant toute mon enfance d'une MJC et de tout ce qu'elle pouvait apporter. Plus tard, donc, et c'est là-dessus que je souhaitais aujourd'hui témoigner, avec du recul, nous interrogeons sur comment faire société, comment sensibiliser la jeunesse à une démocratie, à la pratique de la démocratie. Et je pense que ces lieux de jeunesse sont un lieu privilégié d'éducation populaire. L'intérêt des MJC en général, c'est qu'elles sont directement implantées dans des quartiers. Sur des territoires où il y a ce besoin.
Et vous y faisiez quoi, vous, Fatia?
Alors, moi, j'étais au conseil d'administration.
Et quand vous étiez plus jeune et que vous participiez à la MJC en tant que jeune, du coup?
Oui. Alors, j'ai découvert la culture. J'ai découvert des peintres. J'ai découvert... il y avait des sorties au théâtre. J'ai découvert l'opéra. Alors que l'opéra, pour moi, ça ne voulait rien dire. Il y avait des sorties, nous avons un très beau théâtre à Besançon, il y avait régulièrement des sorties. Nous sommes partis également donc sur un lac pour des activités sportives. Donc toutes ces activités que je n'aurais peut-être jamais connues si cette MJC ne les avait pas proposées. Et je voulais aussi témoigner plus récemment, de l'intérêt des MJC sur des territoires fragilisés. Donc j'ai été à la MJC de Palente, donc qui est bien connue sur Besançon puisque implantée dans le quartier des Lippes. Donc Lippes est bien connue sur Besançon et sur le territoire national. Donc au sein de notre conseil d'administration, nous avions des militants. Et nous nous sommes aperçus que, bien sûr, pour pouvoir faire vivre une MJC, vous en parliez tout à l'heure, nous sommes amenés de plus en plus à avoir des fonds propres, donc de faire payer aussi certains stages. Et nous étions vraiment désolés d'afficher cette offre sans que des enfants du quartier dans lequel nous étions implantés, donc en qualité d'administrateurs, nous étions plusieurs, que ces enfants ne puissent en bénéficier. Et donc notre directeur Patrick Estienet a eu l'excellente idée d'aller rencontrer les organismes logeurs en leur exprimant ce souhait plutôt que ces gamins passent leurs vacances au pied des immeubles
et trouver en effet, j'imagine, des subventions. Et c'est vrai que c'est une question intéressante que vous posez, Fatia, et c'est un peu finalement l'avenir de ces structures. Je me tourne vers vous, Marie-Pierre Bureau, mais on parlait tout à l'heure de l'esprit culturel qui pouvait y régner, le nouvel esprit 2015 qu'il fallait trouver, mais peut-être qu'aussi il faut trouver de nouvelles sources de financement.
Oui, sans doute. Et en même
mais
temps,
mais c'est aussi ça, peut-être, ce à quoi aujourd'hui, directeur de MJC, vous êtes confronté, enfin de MJC de structure, vous êtes confronté là où vous ne l'étiez pas avant.
Dans une scène nationale, oui, on en cherche des ressources. Ce qu'il y a, c'est que moi, au plus fort de la crise, à Chambéry, ce que j'ai beaucoup entendu, là, je parle pas des élus, hein, je parle de, c'est une ville moyenne, donc on parle beaucoup avec les commerçants, etc. C'est, mais enfin, le public, d'accord, vous dites qu'il y en a beaucoup, vous dites qu'il y a plus de 60 000 entrées par an, et ben, il suffirait d'augmenter les place, allez, tout le monde paye 5 euros de plus par place et puis on y arrive. Et petit à petit, au fil de la discussion, ce que j'ai beaucoup entendu, et notamment de la part des plus jeunes, c'est ça qui m'inquiète beaucoup, c'est la remise en cause totale de l'idée même d'un service public de la culture. C'est un peu l'idée que la culture serait un loisir comme un autre, finalement, et que celui qui veut accéder à ce loisir a qu'à se le financer. Précisément, s'il y a des subventions depuis le début, nos subventions, elles s'appellent complément de prix, hein, donc c'est fait pour faire baisser le prix des billets, c'est pour permettre cette accessibilité, notamment celle des jeunes.
Allez, le reportage d'Antoine Lee aussi, comme promis, hein, notre reporter s'est rendu à Saint-Ouen, cette commune de Seine-Saint-Denis qui risque de perdre l'une des associations culturelles et mythiques. Il s'agit de Main d'œuvre. C'est une association née il y a 17 ans qui s'est installée dans l'ancien centre social et sportif des usines Valeo, un bâtiment de 4000 mètres carrés, un site qui est devenu donc un lieu culturel où se mêlent musique, expositions, rencontres. Et le problème, c'est que la municipalité n'envisage pas de renouveler le bail. L'association doit quitter les lieux dans 2 ans environ. Antoine Lee a pu visiter ce lieu avec Mélanie Gaillard, la responsable des actions culturelles. Et comme d'habitude, c'était un moment assez animé.
Alors ici, nous sommes dans le restaurant de main d'œuvre. Et c'est aussi un espace dans lequel on a un espace de circulation, dans lequel on se pose sans avoir forcément besoin de consommer.
Là, il y a pas mal de monde dans la salle. Et c'est très varié. Hein. Il y a des personnes âgées, il y a un bébé d'un an avec sa maman, il y a des jeunes.
Donc il y a tout le monde en fait qui peut passer ici. Voilà, c'est un lieu de passage, de rencontre. Un lieu de mixité, si je peux dire ça comme ça.
Là, on entend de la musique, c'est quoi ?
Alors, ce soir, là, c'est un concert de chansons françaises pop.
On va l'écouter un peu, là, le concert. Et là, le concert, il est gratuit.
Le concert est gratuit, tout à fait, tout comme les expositions à main d'œuvre.
Alors là, on descend. On va où là, Mélanie ?
Nous allons dans les studios de répétition de main-d'œuvre.
L'avenir de main-d'œuvre se présente mal. Qu'est-ce qui se passe ?
La nouvelle municipalité ne nous veut plus dans ce lieu.
Pour quelle raison ?
Différentes raisons, des raisons financières, budgétaires, politiques.
Vous venez répéter à main-d'œuvre depuis longtemps ?
Oui, ça fait plus d'une dizaine d'années.
Et pourquoi vous venez ici particulièrement ?
Parce qu'au départ, on avait essayé plusieurs autres studios qui étaient moins bien équipés.
Ça coûte cher ici ?
Ça coûte pas très cher. Enfin, ça coûte, je crois que nous, on paye 12 euros par heure.
Et vous savez que le lieu est menacé de fermeture ?
Oui, oui. Ce serait une grande partie de l'histoire de notre groupe qui disparaîtrait, vu que ça fait longtemps qu'on répète là. Et on les connaît bien, toute l'équipe et tout ça, quoi. Effectivement, s'ils disparaissaient, ça nous ferait bien du souci.
Ah bah alors là, on change complètement de décor. On rentre dans une salle où il y a des légumes de partout, là, ça surprend.
Ah, parce que 2 mercredis par mois, il y a une AMAP de Saint-Ouen qui s'est créée, qui vient donner les fruits, légumes et herbes aromatiques.
Bonsoir madame.
Bonsoir monsieur.
Il y a quoi dans le grand panier ce soir ?
Des betteraves, des courgettes et il y a aussi des fraises qui sont là-bas encore et une salade.
Vous habitez à Saint-Ouen ?
Oui.
Et c'est important d'avoir un endroit comme ça dans une ville comme Saint-Ouen ?
Mais je pense, oui, parce qu'il y a quelques jours, j'ai découvert que Saint-Ouen était la plaque tournante de la drogue dans la région parisienne. Je me suis dit, là, c'est un contrepoint d'avoir un endroit où on vient acheter des légumes plutôt que de la drogue. Non ?
Bonjour jeune homme, qu'est-ce que vous faites avec votre ballon, là ?
Je joue au foot et je suis venue rejoindre mes parents.
Pourquoi ils font quoi, tes parents ?
Là, mes parents sont en train de prendre des légumes. Surtout du jus de pomme.
Vous êtes sa maman ?
Oui.
Nous, on défendra main-d'œuvre jusqu'au bout parce que c'est un lieu qu'on aime beaucoup. Quelles que soient nos origines sociales ou ethniques, on se retrouve tous. C'est un lieu de sociabilisation aussi. C'est très important parce que grâce à la musique, à la culture, avec un grand C, on fait passer des messages auprès des enfants. On leur évite peut-être des chemins malheureux.
Voilà. Le reportage d'Antoine Lee. Antoine qui a évidemment contacté la mairie de Saint-Ouen. Le cabinet du maire a fait savoir que la mairie avait son propre projet culturel, plutôt dans la musique, et souhaitait récupérer ce site pour le développer. Donc c'est un exemple évidemment parmi d'autres. Est-ce que ça veut dire qu'on est pour vous, Frédéric Gimello, vous êtes sociologue hein, de cette question, dans une sorte de mutation aujourd'hui ?
Oui, indéniablement, il y a un phénomène d'évolution des pratiques qui est lié depuis, on va dire, une quinzaine d'années. Alors, on est plusieurs à l'analyser, mais en tout cas, la question des pratiques numériques, la réduction de la fracture numérique, c'est-à-dire le fait que les personnes sont connectées, hyper connectées sur les réseaux sociaux, etc., a posé la question de la culture de la proximité. Que reste-t-il aujourd'hui de cette question de la proximité ? Est-ce que ce terme de culture de proximité ou d'équipement de proximité, est-ce que ce terme est pertinent aujourd'hui dans un espace où on est hyper connecté, où les jeunes sont équipés de smartphones et peuvent justement découvrir des cultures auxquelles ils n'avaient pas accès, par leurs propres moyens, via une auto-formation. Aujourd'hui, le terme d'usager expert n'a jamais été aussi répandu. C'est une question vraiment qui est centrale et qui sur lesquelles la question du consentement à payer qui était posée tout à l'heure par Marie-Pierre Bureau justement sur le consentement des usagers aujourd'hui à s'inscrire dans la durée sur une durée suffisamment longue pour pouvoir bénéficier d'un apprentissage de certains nombres de pratiques est une question éminemment centrale en matière d'économie culturelle aujourd'hui.
Finalement, alors c'est vrai que cette question, on peut vous la poser à vous deux qui dirigez des centres culturels. Marie-Pierre Bureau, Didier Michou, qu'est-ce que c'est que cette culture de proximité que vous pouvez aujourd'hui proposer et que le smartphone ne peut pas proposer ?
Alors, en ce qui nous concerne, on a à la fois donc un certain nombre d'activités proposées. Il y a encore des cours de guitare, comme... Il peut y avoir, même si on a un conservatoire juste en face, on n'est absolument pas en concurrence, mais on est bien complémentaire. On a évidemment des animations et des spectacles de proximité, notamment la mise en place depuis de nombreuses années d'une initiative qui s'appelle Scène nationale de proximité jeune public. Donc, initiative que l'on a prise avec 7 MJC du département de l'Essonne. Ça veut dire une quinzaine de spectacles dans l'année, jeune public. Ça veut dire un travail avec des écoles. Ça veut dire aussi un public qui fréquente régulièrement la MJC. Par rapport à notre salle, c'est 150 personnes maximum de toute génération confondue. C'est aussi la mise en place de festivals de danse urbaine. Là, le 16e festival de danse urbaine n'aura malheureusement pas lieu parce que la ville a décidé de nous couper les subventions. Donc c'est aussi ça, pour nous, la culture de proximité. Je rebondis aussi sur le fait que c'est un lieu d'apprentissage collectif et on est aussi un lieu de médiation, aussi.
Marie-Pierre Bureau.
En tout cas, je pense que ce qui est irremplaçable dans l'expérience esthétique qu'on propose, c'est la rencontre du vivant. C'est que tout d'un coup, il y a des gens ensemble qui vont faire une communauté provisoire, éphémère, le temps d'un spectacle, d'une proposition artistique, être confronté au vivant. Et à chaque fois, c'est quelque chose d'irremplaçable, cette expérience-là, en termes de traversée émotionnelle. Je vois pas ce qu'on peut proposer de mieux. Jamais Internet fera ça.
Évidemment. Le lien social, c'est un lien charnel, c'est pas un lien virtuel. Et que le grand problème de ces liens virtuels, c'est qu'ils ont plutôt tendance à communautariser, à atomiser les jeunes dans des groupes dans lesquels ils font déjà partie. Et que se relier les uns aux autres, c'est ouvrir ces groupes-là. C'est lutter aussi contre certaines formes de radicalisation, comme on en voit de plus en plus, parce que les jeunes ne peuvent plus se rassembler qu'autour du même et non pas autour du différent.
Eh bien, ce sera le mot de la fin, en tout cas sur ce chapitre. Merci d'avoir participé à ce service public aujourd'hui. La suite de service public, c'est donc la chronique de Serge Effès que vous venez d'entendre et la décision d'inscrire au registre civil 3 enfants nés GPA. Ce sera juste après Yaël Naïm, pardon. Il est 10h51 sur France Inter.
Still be saved.
Céleste. C'est signé Yaël Naïm. Toute la programmation est sur le site franceinter.fr à la page service public.
Voilà, donc inconscient et subconscient, c'est une question de souplesse. Inconscient et subconscient, et deux conscients et subconscient. Maintenant, on réfléchit bien sûr, et trois conscients et subconscient, hein, tout dans les genoux.
Et comme tous les mercredis, pour une fois, c'est pas le patient qui parle, mais le psy. Serge Effèze, le tribunal de grande instance de Nantes vient d'ordonner d'inscrire dans l'état civil trois Français nés d'une gestation pour autrui à l'étranger. Une nouvelle avancée pour ces enfants baptisés fantômes de la République et à qui, finalement, la nationalité française était jusqu'à présent refusée.
En effet, Thomas, un pas vient d'être franchi, mais je devrais dire aujourd'hui venait d'être franchi. En mars, le parquet de Nantes, compétent en matière d'état civil pour toute la France, s'était opposé à la transcription dans l'état civil français des actes de naissance de ces trois enfants. Le tribunal vient de l'enjoindre de procéder à cette transcription et de surcroît à verser 1 000 euros de frais d'avocat aux familles. Mais rebondissement d'hier, le parquet qui veut décidément s'acharner sur ces pauvres enfants et les maintenir dans leur état de fantôme a fait hier appel de cette décision. Et pourtant, cette décision n'était qu'une simple application de deux arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme qui prônent le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. La gestation pour autrui, quant à elle, reste et restera sans doute longtemps interdite en France. Cette injonction du tribunal de grande instance de Nantes a immédiatement provoqué la colère des opposants à la pratique de la gestation pour autrui et une tribune réclamant son arrêt immédiat, signée par de nombreuses personnalités, a été publiée dans le journal Libération de la semaine dernière.
Et sur quels arguments se fonde la tribune ?
Mais ce qui est nouveau dans cette tribune est que, au-delà des principes éthiques que personne ne conteste concernant la marchandisation des corps et l'exploitation des femmes les plus démunies, des arguments inédits sur les risques médicaux sont avancés dans la plus grande confusion en mélangeant sans la moindre nuance, le sort promis à celles qui donnent ou vendent leurs ovocytes, torsion ovarienne, kyste ovarien, dans un certain nombre de cas la mort, à celui des femmes dites mères porteuses, qui risquent hypertension, prééclampsie, et des enfants qui encourent malformations, décès à la naissance et troubles psychologiques divers. Une tribune qui n'est signée par aucun obstétricien et que le professeur Oliven, spécialiste de l'infertilité, qualifie de tissu de mensonge et d'aberration. Rappelons tout de même que le don d'ovocytes a permis la naissance de dizaines de milliers de bébés de par le monde. On peut s'opposer aux procréations médicalement assistées sans agiter des peurs inutiles.
Alors néanmoins, il reste une hostilité très forte en France cette histoire de GPA. Un ancien sondage qui date de 2014, mais le rappelait encore, 56% des Français y sont opposés.
C'est ça.
Sondage IFOP.
Ça divise très fortement l'opinion et on peut le comprendre, car personne ne souhaite que le corps des femmes soit exploité et que, comme cela se produit déjà, des pays pauvres fournissent pour quelques sous des femmes qui vont porter des enfants, bien souvent des jumeaux, pour les couples aisés des pays les plus riches. C'est justement pour lutter contre cette marchandisation des corps que des pays comme le Canada, la Belgique, le Royaume-Uni et bien d'autres ont pris la décision courageuse d'encadrer la pratique des gestations pour autrui afin qu'elle se déroule dans des conditions éthiques et que cette pratique de don et d'échange soit valorisante pour la femme qui porte l'enfant comme pour le couple souffrant de stérilité tout en évitant les dérives financières. Il s'agit alors d'une aventure humaine dans laquelle les relations affectives sont au premier plan. Penser que l'interdiction constitue une protection est une erreur tragique. Voyez par exemple qu'il en est de la prohibition du cannabis. La France est un des pays les plus interdicteurs et aussi celui où la consommation de ce produit est parmi les plus élevées d'Europe. La prohibition est une fausse sécurité, une posture d'autruche qui se met la tête dans le sable en se disant « puisque c'est interdit, ça n'existe pas et ça n'aura pas lieu ». L'interdiction augmente les pratiques clandestines et incite des couples à se rendre à l'étranger en mettant pour le coup des femmes et les futurs enfants en danger et en favorisant des réseaux d'intermédiaires véreux. Plutôt que de multiplier les anathèmes et les situations d'exclusion, pensons avant tout, comme le tribunal de Nantes nous y incite, à protéger juridiquement les 2000 enfants nés par GPA qui se trouvent actuellement sur le sol français.
Merci Serge d'avoir été en direct avec nous dans Service Public ce matin. Merci aussi à toute l'équipe de Service Public, Stéphanie Texier, Léo Dipiel, Lucie Dachary, Chantal Lemontagnier et à la technique ce matin, Juliette Delperou et Alice Berger. Demain matin, vous retrouverez Guillaume Erner. Petit message personnel à Guillaume d'ailleurs. J'ai rangé ton bureau, mais ta tasse de thé vieille de la semaine dernière, je l'ai laissée.